Merci. D'abord, je souhaite remercier vraiment le Georges Alfonso, la Société française de physique, la Frama, toutes les personnes qui m'ont fait confiance aujourd'hui pour essayer d'aborder ce défi autour de l'énergie photovoltaïque. Donc je veux, pour ne pas tarder, on va commencer. Je vous présente le plan suivant. Ça sera en quatre parties. Donc j'essaierai de garder un peu de temps à la fin pour les questions quand même. Donc le premier, ça va être plutôt un petit rappel autour de l'énergie solaire, c'est quoi ? Ça me paraissait intéressant dans le cadre de ce type de conférence avec la présence aussi d'étudiants, de donner quelques chiffres, quelques rappels, qui vont nous permettre après d'aborder à mon sens un point important que j'ai intitulé « une histoire », j'utilise plutôt le terme « une » que l'histoire, l'histoire de l'industrie, où j'aurais pu l'industrie, la recherche, peu importe le terme qu'on met derrière. J'ai regroupé ça. Alors pourquoi l'origine ? C'est ça qui va nous permettre d'aborder les éléments factuels aujourd'hui, en 2023, de ce qu'est la recherche et l'industrie photovoltaïque, d'avoir des chiffres factuels qui vont nous permettre un peu de nous projeter pour les défis. Alors pourquoi j'ai fait ce choix ? Pour une raison que, autour du photovoltaïque, les dernières années, il y a eu beaucoup d'informations, de malinformations, de fake news, etc., qui sont par moments liés simplement à l'évolution rapide du photovoltaïque, simplement que les chiffres qui sortaient étaient en retard par rapport aux chiffres de jour en question. Donc ça me paraissait important d'arriver à ce point-là. Après, j'aborderai quelques défis et je finirai par une conclusion sur une note d'humour, j'espère. Alors, je commence toujours mes diapos par une information qui, je pense, que tout le monde connaît, mais c'est toujours utile de rappeler la différence entre énergie et puissance, bien que c'est évident, on a besoin d'énergie. C'est ça la valeur en termes de physique. Ce qui est important, l'unité, c'est l'énergie en joule. Mais on a tendance dans le quotidien d'utiliser peu de la puissance, watts. Alors que notre compteur à la maison, c'est plutôt des joules, hein, kilowattheures. Alors une autre deuxième raison par rapport à ça, et c'est lié aux énergies renouvelables. Je vais le présenter dans un slide, dans deux slides à peu près, pour expliquer la différence fondamentale entre puissance et énergie. Alors j'ai donné quelques chiffres importants, à savoir que l'humanité aujourd'hui, on est à 17 TWh, une centrale électrique 1 gigawatt, ça donne un petit peu l'ordre de grandeur des choses. Alors, commençons par quelques chiffres astronomiques. Genre, j'avais rappelé que j'avais fait un peu d'astronomie il y a quelques années, au-delà d'être astronome amateur. Alors, ce que je représente ici, c'est vraiment notre Soleil, la Terre. Et par rapport à cette distance, par rapport à la surface de la Terre, voici un petit peu ce qu'on reçoit comme énergie. Alors, j'ai fait exprès de rajouter, de garder les zéros après les zéros, pour avoir l'ordre de grandeur, c'est des pétawatts, donc 10 puissance 15. Donc, c'est un chiffre assez important. Alors, vous me direz, et ça, certaines personnes disent, c'est diffus. Voilà, c'est une énergie qui est diffuse. Donc, forcément, elle est diluée, certes. Elle est intermittente, certes. Mais, au même moment, en fait, on peut dire le contraire de ça, en disant qu'elle est diffuse, donc elle est partout. Y compris sur les mers, y compris partout. Alors, à la différence d'autres sources d'énergie, qui sont très très localisés, qui peuvent poser problème en termes de ressources, là, il n'y a pas de problème. Il suffit simplement de quelque part tendre la main pour avoir un peu d'énergie. Donc fondamentalement, il faut s'y adapter. Je mets ça en rouge parce que c'est un changement aussi de paradigme par rapport à notre vision de l'énergie qui a été, pendant des siècles, gouvernée par une information. On a une source, on la prend et on l'utilise. D'accord ? Là, il faut changer un peu de paradigme, nous dire cette source-là, elle est ce qu'elle est, elle est abondante, il faut s'adapter à cette ressource-là. Alors, cette énergie-là, globalement, on appelle ça la constante solaire. Donc, au niveau de la surface de la Terre, on est à peu près à 1000 watts par mètre carré. Alors, comment cette énergie va se distribuer ? Alors, ce graphe-là, il peut paraître un peu complexe, mais on va le regarder en détail, ça me paraît très important, c'est un travail qui a été fait en 2006. Ils ont essayé de regarder vraiment la cascade d'énergie de solaire. Alors, ce que représenté ici, c'est des flux en terawatts. Donc, 10 puissance 12 watts. Donc, on a l'énergie solaire qui arrive, là, et toute la cascade. Et c'est là où je reviens à mon deuxième slide, l'énergie et la puissance. C'est que les réserves d'énergie qu'on a sont des réserves en joules. que ce soit pétrole, gaz, comme vous voulez. Alors que l'énergie solaire, c'est un flux. Ce n'est pas une réserve, en fait. Et souvent, dans certains diapos ou dans certains articles, on représente, en gros, l'énergie solaire comme un grand cube, et à côté de ce cube-là, on met des petits cubes ou bits sphères. Ben, c'est une image qui est un peu erronée, parce qu'on a l'impression de représenter des réservoirs. Or, ici, ce n'est pas un réservoir, en fait. Pour les 4 milliards prochaines années, on aura toujours cette énergie-là. Donc, abondante avec les chiffres qu'on a. Donc, à partir de là, cette énergie-là, elle va cascader, elle va faire les vents, les mers, enfin, les vagues. Toutes ces énergies-là qu'on appelle éolien, hydraulique, etc., c'est qu'une transformation de l'énergie solaire. Donc quasiment, on peut dire que tout ce qu'on a comme énergie est solaire. Quasiment. Alors, ce qui va nous intéresser, nous, y compris, en fait, tout ce qui est charbon et gaz, en fait, c'est une dérivée de l'énergie solaire qui était stockée, transformée par la photosynthèse, avec un débit donné. Donc là, c'est représenté en joules, parce que c'est des réservoirs qu'on va essayer de puiser plus ou moins, difficilement, facilement. Tout le reste, c'est un flux. Alors actuellement, ce qui va nous intéresser ici, c'est ce qui va arriver sur la surface de la Terre, directement. Donc ce chiffre-là, donc 4300 TWh, donc ce chiffre-là, on va essayer de le capter et le transformer d'une manière directe. Ça, c'est déjà l'information diffuse, mais c'est une conversion directe. À la différence des autres formes d'énergie, il y a déjà un processus de conversion qui est déjà fait, à savoir le rayonnement solaire chauffe l'air ou l'eau, et il y a une transformation avec des pertes. Là, on va essayer de capter cette énergie-là. Alors, vous voyez ici le chiffre, c'est ce qu'on utilise actuellement. C'est-à-dire, en gros, toute la conversion de l'énergie solaire photovoltaïque actuelle, on va y revenir petit à petit dans les diapos suivantes, on est à ce chiffre-là, aujourd'hui, 0,88 TWh. Donc, on est très, très, très loin de ce chiffre-là. Alors, j'ai représenté ici les autres pour compléter tout le tableau de toutes les autres énergies possibles. Bon, le nucléaire, il est là. Donc, c'est aussi des réservoirs. Il y a tout ce qui est géothermie, il y a tout ce qui est force marionmotrice, qui ne sont pas des énergies proprement dites solaires. C'est dans le système solaire, forcément, mais ce n'est pas proprement dit l'énergie solaire. Mais vous avez bien compris que la grande quantité, elle est là. Alors, on va se poser la question, on a cette énergie-là. Alors, avant que je passe aux questions, juste une petite information. Ici, j'utilise le terme d'exergie et non pas d'énergie. Et ce que je représente ici, c'est des exergies. Alors, l'exergie, c'est la partie utile de l'énergie. Autrement dit, quand vous avez une quantité d'énergie en joules, on sait que tout processus de conversion a un rendement qui est lié à la création d'entropie. Donc là, ce que je représente ici, c'est la partie utile qu'on peut avoir. Donc, il n'y a pas, quelque part, les pertes entropiques ont été déjà prises en compte. Alors, je dis ça, c'est que on va essayer de se poser une question par rapport à ce potentiel-là. Si on peut imaginer une machine thermique, quel est le rendement maximal qu'on peut obtenir par l'énergie solaire? Donc, ça a été calculé assez tôt, d'ailleurs, dans les années 80. On appelle ça la limite de Landsberg, qui prend en compte vraiment les flux d'énergie, les flux d'entropie et tout le reste. Et on arrive à ce chiffre-là. Donc, autrement dit, on ne peut pas aller plus de 86% de l'énergie. C'est beaucoup comme conversion, d'accord. Mais ça nous donne un petit peu à quel niveau on peut aller. À ceci près, ça c'est une conversion thermique. Autrement dit, j'ai une machine thermique ici. Ce n'est pas de la photoconversion, d'accord. Plus tard, dans mes slides, à toute fin, je présenterai par rapport aux cellules solaires à quel niveau on peut aller. Ce n'est pas très loin, mais il manque ici quelque chose. On en parlera. Voilà. Alors, c'est assez tôt, en fait, les gens se sont posé la question de convertir l'énergie solaire. Alors, il se trouve qu'historiquement, les personnes ou l'endroit où ça a été imaginé, c'est en France. C'est assez tôt. Vers l'année 1850, à peu près, enfin, les années 19e siècle, il y a un monsieur, un mathématicien, Michaud, qui est assez tôt, était parmi les premiers, même peut-être le premier, bon, les historiens diront le premier, qui avait imaginé ça, convertir l'énergie solaire en chaleur, quitte à mettre une machine thermique derrière. Il a même déposé le brevet qui est considéré comme étant le premier brevet autour de la conversion de l'énergie solaire. Alors, tous ces travaux, il l'avait fait à Alger. La raison est que, à l'époque, l'Algérie faisait partie de la France, forcément, mais aussi parce que il y avait cette question par rapport à cet endroit-là, est-ce qu'il y a un moyen de générer l'énergie? Donc il avait réussi à. Et tout, enfin, le maximum qu'il a pu faire, c'est au niveau de l'expo internationale qui s'est passée en France, au pavillon d'Alger, il a présenté sa machine. Il avait même mis une imprimante derrière qui imprimait des livres, je crois que c'était 500 livres par cette imprimante-là, à savoir qu'il avait fait au centre, au foyer de cette parabole-là, une machine thermique. Donc c'est assez tôt, et surtout il avait publié un livre qui est resté au départ parmi les premiers textes qui parle de l'intérêt de convertir l'énergie solaire. Ce texte-là a été plus tard diffusé un petit peu partout dans le monde et qui avait fait les premières idées, y compris aux États-Unis, à partir de là, de convertir l'énergie solaire. Alors, j'ai réussi à trouver, comme par hasard, sur Gallica, tout en lien avec ça, ce petit fascicule, qui est le petit inventeur, qui a été fait au moment en fait, de l'expo internationale. Vous avez même à l'époque dit, bon, il y a quelqu'un qui a inventé une machine qui convertit l'énergie solaire, on n'a qu'à installer ça sur... Donc, c'est assez intéressant de voir qu'en 1850, les gens déjà se projetaient avec l'énergie solaire. Mais ce qui est arrivé, c'est que forcément, quelques années après, le fait que le prix du charbon avait baissé, qu'il y a l'énergie, le gaz, le pétrole sont arrivés, enfin, toute cette idée-là, toute cette orientation de la conversion de l'énergie solaire en chaleur a disparu. Et y compris à ce jour, ça reste une des procédés de conversion qui n'a pas fonctionné. Alors que potentiellement, on peut faire la chose par ce qu'on appelle le thermodynamique. En France, on a Odeo, un four solaire qui a été développé dans les années 60, qui à l'époque était... les miroirs qui étaient utilisés pour concentrer le rayonnement solaire étaient parmi les plus grands dans le monde. Mais cette filière-là de conversion s'est arrêtée, s'est tarie, pour plusieurs raisons. Hein, on ne va pas rentrer dans le détail, mais c'est intéressant de voir que la première, quelque part, rencontre avec l'énergie solaire a été par la voie thermique. Alors, au même moment, pour la même période, il se trouve qu'il y avait des travaux à Paris autour de... non pas l'utilisation de l'énergie solaire, pas du tout la question, hein. La question était purement physique, à savoir il y avait des matériaux qui étaient sensibles à la lumière. Purement recherche fondamentale, des questions autour de la lien entre lumière et matière. Et un petit jeune, alors j'ai jeune parce qu'il avait 19 ans, Edmond Becquerel, a mis en place une expérience, hein, c'est une cuve, hein, en bois avec à l'intérieur de l'eau, il avait même un peu d'acide dedans. Avec des expériences, il a noté ça. Il a noté que, bon, mettons un éclairage lumineux, à partir d'un certain seuil, on a une génération de courant à l'intérieur de la cuve. Si ces plaques métalliques étaient induites ou traitées par le chlorure d'argent. Alors, on sait maintenant que le chlorure d'argent, c'est un semi-conducteur, hein, qui a un gap autour de 3 eV. Donc, un courant très faible, il avait utilisé un galvanomètre autour de 30 000 spires. Je n'ai pas réussi à faire la mesure du calcul du courant, mais c'est très, très faible. Parce que 30 000 spires, ça fait un appareil de haute précision. Et ce travail-là était resté vraiment oublié. La preuve, dans certains livres, on ne parle pas de Becquerel, et demande de son père. Enfin, on pense que c'est son père qui a découvert ça et non pas le fils. Alors, c'est vraiment le fils qui l'a fait. Donc, c'est pour ça que souvent j'en parle, parce qu'on l'oublie et j'aime bien le rappeler. Voilà. Et à partir de là, c'est suivi assez vite. Il y a eu une concordance de découvertes purement scientifiques, encore une fois, sans aucun lien avec une application potentielle d'énergie solaire, à savoir la découverte de l'effet de la sensibilité du sélénium à la lumière. Et assez vite, en 1877, Fritz, aux États-Unis, a fait une expérience après du sélénium, plaque de cuivre et de l'or. Il a fait une première cellule solaire avec 1% de rendement. Là, c'est une photo du premier module qui a été installé en 1884, je mentionne. Donc, vous voyez, c'est une histoire très très vieille finalement, mais qui à l'époque, en fait, fonctionnait, mais on ne savait pas pourquoi en réalité. On avait quelque chose, mais on n'avait pas de théorie physique derrière, on n'avait pas de théorie sur les matériaux, donc ça marchait, mais on ne savait pas pourquoi. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il faut vraiment attendre les années 20-30, avec un autre problème physique qui était à l'époque par le laboratoire Bell, qui avait un problème sur les commutateurs téléphoniques, qui étaient à l'époque mécaniques. Donc ils voulaient mettre en place un système de commutateurs plutôt petit, okay, et surtout qui consommaient beaucoup d'énergie. Donc il y avait tout un programme autour de ça, et en parallèle de ça, il y a la mécanique quantique, la théorie des bondes qui était mise en place, et on a découvert l'explication des semi-conducteurs, pouvoir doper les semi-conducteurs, et surtout la mise en place des premières jonctions PN, qui étaient encore une fois pas d'utilité pour le photovoltaïque. Alors il y a une date. Alors, l'explication en fait, à partir de là, on a pu expliquer l'expérience de Becquerel. Alors, je n'ai pas cité ici à dessein 1905, parce que souvent on cite l'article d'Einstein de 1905 pour l'effet photoélectrique. Je ne l'ai pas cité pour une raison. Je trouve que cet article-là n'a rien à voir avec l'effet photovoltaïque en réalité. Ce n'est pas tout à fait ça en fait. L'article d'Einstein, c'était d'abord expliquer l'énergie des photons. Et deux, ça avait une extraction des électrons, c'est-à-dire le pouvoir des photons à extraire des électrons. Mais ce n'était pas l'effet photovoltaïque. D'accord ? C'est l'effet photoélectrique. La différence, on va la voir, elle est ici. C'est le travail des photons. Et ça, c'est important. C'est ça le mystère, en fait, si je peux utiliser ce terme-là. J'utilise parce qu'il se trouve que Fried, quand il a envoyé ses cellules en Europe, notamment à Maxwell, quand il regardait ses cellules, il ne comprenait pas pourquoi ça fonctionnait. Pour eux, c'est de la magie. Et même il y a un rebond de machines perpétuelles derrière, on n'arrive pas à expliquer les choses. Donc c'est là en fait la subtilité, c'est qu'on sait maintenant qu'il y a les semi-conducteurs, la bande de valence, la bande de conduction, on le sait, à partir de la théorie des bandes, et on crée des électrons, et surtout on crée des trous. Et c'est ça qui est fondamentalement différent, c'est qu'on a deux populations, électrons et trous, et qu'à la différence des métaux, c'est que les électrons vont relaxer dans la bande de valence, et que c'est cette énergie-là, ce travail-là, ce potentiel qu'on va essayer de récupérer autour du gap. Donc potentiellement, je dis bien potentiellement, les photons ont comme potentiel le gap. Et c'est ça l'effet photovoltaïque, à savoir récupérer un courant, mais récupérer une sans tension. Donc les deux, on a une puissance électrique. Parce qu'on peut prendre deux plaques métalliques, on peut les irradier, il y a l'effet photoélectrique, vous mettez une tension et vous avez un courant, mais vous êtes obligé de mettre une tension pour aller mettre en place un champ électrique. Là, en fait, le photon, il fait tout le travail. D'accord ? Et on a le travail qui est donné par là. Alors, à partir de là, on a compris pourquoi le sélénium fonctionnait, pourquoi c'est une cellule photovoltaïque, d'où venait cet effet-là. Et on a commencé à travailler sur ça pour fabriquer les premières cellules solaires pour les applications téléphoniques. Mais ça ne fonctionnait pas. Autrement dit, le rendement de sélénium était trop faible pour faire ça. Et les trois personnes qui sont ici, dans le laboratoire Bell, en fait, avaient ce problème-là, ils travaillaient sur le sélénium. Il se trouve que Fuller avait proposé d'une manière assez hasardeuse, il n'y avait pas derrière une idée, hein, il a dit, bon, on ne va pas prendre un bout de silicium, on le trempe dans l'aluminium et on regarde comment ça se passe. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas une induction derrière, il y avait un processus complètement... par erreur, hein, enfin par erreur, plutôt par chance, hein, de mettre un bout de silicium dopé qui était N, en l'occurrence, dopé gallium N, plongé dans l'aluminium, et on avait fait une première jonction PN. Et on a compris après pourquoi, parce que l'aluminium avait un dopage type P, donc automatiquement, on avait une jonction PN, et du coup, on avait notre cellule solaire. Et ça fonctionnait, sauf qu'on a les travaux rapidement, au bout de quelques mois, ils ont abouti plutôt à du silicium dopé bore et phosphore, et ils ont publié l'article qui est maintenant resté un petit peu comme étant la première démonstration de cellules solaires avec 6% de rendement. Alors, j'ai mis ici une copie de l'article et j'ai souligné en rouge certaines informations. C'est que rapidement, dans le premier article, on est en 54, hein, tous les éléments, tous les verrous scientifiques étaient posés pour dire voici pourquoi ça fonctionne et pourquoi ça ne fonctionne pas très bien. À savoir, un problème qui est lié à la non-absorption des photons solaires, la recombinaison des charges photogénérées à l'intérieur de la jonction. Quasiment, il y avait le programme de recherche qui était établi dans le papier. Voici la direction qu'il faut utiliser pour aller. Donc à partir de là, 54. Alors en France, c'était 58. La première cellule solaire, c'était Rodeau, Michel Rodeau, au CNRS. Alors, je n'ai pas mis de photo ni d'article pour la bonne et simple raison, je n'ai pas trouvé l'article. Mais je sais qu'il existe. Pourquoi ? Parce que ses élèves m'ont dit ça. Pour avoir discuté avec ses élèves, en 58-60, on sait qu'entre 58 et 60, la France avait fait la première cellule solaire à 11% à base de silicium. Mais bon, je le trouverai. cet article. Et rapidement, en fait, l'engouement a été mis en place et qu'on s'est dit, bon, on a 6%. Assez vite, on s'est posé la question à quelle limite on peut aller, finalement, avec ces cellules solaires. Et assez vite, Choclet, Kaiser, Kaiser était son élève, l'élève de Choclet, ils se sont posé cette question et ils ont développé un modèle d'une simplicité, déconcertante. Ça veut dire un modèle avec un seul paramètre qui est le gap. Et c'est un modèle qui tenait très très bien, à savoir qu'ils ont dit, bon, ici, cellule solaire, si j'ai une onction PNCR, elle absorbe des photons qui viennent du soleil avec un angle solide, mais la cellule aussi, parce qu'il y a des phénomènes de recombinaison radiative, qui est l'inverse de l'absorption, émettait aussi des photons. Ben, on n'a qu'à écrire un bilan détaillé, absorption, émission, avec un seul paramètre, qui est le gap. Et à partir de là, j'ai calculé à partir de ce modèle-là, le rendement, en fonction du gap qu'on va mettre ici de la cellule, qu'on peut obtenir. Première information, si on met un seul gap, on arrive à peu près à 31% de rendement. Autrement dit, dans le cas idéal, on ne peut pas faire que plus de 31% de rendement. Et voici les pertes qu'on a. C'est assez important comme perte. Si je mets autour du silicium ici, à 31%. Alors, ça fait la partie des photons qui ne sont pas absorbés, qui n'ont pas assez d'énergie pour générer des charges, la photoconversion. Ça, c'est ce que la partie thermalisation, rappelez, les électrons, quand ils vont être générés, ils vont absorber largement plus d'énergie nécessaire pour juste aller à la bande de valence. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la thermalisation. Alors, la collecte, c'est un peu plus subtil, c'est que au moment même où on veut aller chercher, on veut les collecter, on perd une énergie. Alors, ce terme-là, je vous le présenterai dans le slide suivant, mais pour le moment, ce qui est important à garder en esprit, c'est qu'on a... Alors, pour le silicium, ça a été recalculé avec une limite réaliste, c'est-à-dire de matériaux pour le silicium, on peut monter à 29%. Alors, certains diront, c'est pas énorme, peut-être, mais c'est beaucoup en réalité, si on le compare à d'autres processus de conversion d'énergie.
C'est assez simple.
Alors, on va rentrer un peu dans le détail pour expliquer encore une fois cette nature du travail des photons avec votre courbe IDV de votre diode. D'accord ? Ça, c'est votre courbe IDV de votre diode, jonction PN. On a le courant de court-circuit, la tension, et c'est là où on va extraire l'énergie maximum. Alors, ce que je vous donne ici, je vais représenter ici schématiquement pour comprendre le sens physique de chacun de ces points. Quand on est au courant de court-circuit, c'est-à-dire vous prenez votre cellule solaire, elle est en face du soleil, et vous la court-circuitez avec un fil électrique, ou vous mettez un ampèremètre, pour être simple. Vous mettez un ampèremètre pour mesurer le courant, c'est qu'un court-circuit, un ampèremètre, par rapport à votre travail. Et là, c'est votre énergie. En réalité, c'est si vous mettez, vous faites bouillir de l'eau, il y a la pression qui sort, mais c'est tout. Alors vous ne récupérez pas cette pression-là, vous ne mettez rien pour la récupérer. Autrement dit, il n'y a pas de charge, il n'y a pas ni de lampe, ni de voiture, ni de maison, ni rien pour aller extraire cette énergie-là. Donc la pression est là. Le point qui est là, ce qu'on appelle la tension circuit vert, c'est-à-dire le maximum de tension qu'on peut avoir, c'est l'exemple opposé à celui-là. On va fermer notre compartiment, on va laisser chauffer. Donc la pression va monter au maximum, mais comme elle est fermée, on ne peut rien faire. Donc c'est le maximum de puissance qu'on a, de tension, mais on n'a pas de puissance qu'on veut extraire. Alors, si on veut extraire la tension, et c'est là pour revenir à... Oula, qu'est-ce qui s'est passé ? Voilà. C'est là pour revenir à ce point-là, la collecte, c'est qu'au moment où on veut collecter cette pression-là, donc on ouvre, il y a une perte de pression, une toute petite perte de pression, et c'est ça qui correspond à notre perte de rendement. Alors, on peut l'expliquer avec la physique statistique, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais on peut l'expliquer aussi par d'autres moyens. Là, c'est un moyen plutôt rapide. Et le travail de notre photon, c'est-à-dire la tension qu'on va récupérer, c'est la différence des niveaux de Fermi entre les électrons et les trous. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, la théorie des bandes et la mise en place des électrons et des trous dans un circuit conducteur, c'est fondamentalement ce qu'est une cellule solaire. S'il n'y a pas des trous, il n'y a pas de cellule solaire. C'est un métal, c'est pas une cellule solaire. Donc, il faut vraiment deux populations avec deux niveaux d'équilibre et ce qu'on va récupérer, c'est la différence entre les deux. Un tout dernier slide de physique, et après on passera à autre chose. Alors, là, je vous ai montré ici la tension. Alors, pourquoi on est limité à ces fameux 31% de rendement ? Donc, théoriquement, on peut absorber tout le rayonnement solaire, c'est-à-dire le courant ici que vous avez ici, on peut absorber tous les photons qui viennent du soleil. La limitation fondamentale, elle est de la tension. En fait, c'est la tension qu'on perd. Pourquoi on perd la tension ? C'est la thermodynamique qui nous dit ça. Alors, on va essayer d'expliquer avec les mains. Globalement, votre énergie, c'est votre tension, c'est votre gap. C'est là que vous voulez récupérer. D'accord ? Donc, quand vos électrons montent à la bande de valence, bande de conduction, c'est cette tension-là qu'on va récupérer comme énergie. C'est votre énergie utile. Ben, la thermodynamique, elle vous dit toujours que vous ne pouvez pas récupérer cette énergie-là. Ce que vous pouvez récupérer, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre qui est là. Et globalement, c'est la formule qu'on connaît en thermodynamique, c'est l'énergie libre, c'est l'énergie moins dTS. Alors, l'entropie, c'est quoi ? On va chercher où se génère l'entropie dans une cellule solaire. Si on arrive à détecter où est générée l'entropie, si on est capable de voir est-ce que c'est des processus intrinsèques, extrinsèques, on peut jouer sur ça. Alors, l'entropie, elle est générée où ? Première chose, elle est générée du fait que notre cellule solaire a la température ambiante et qu'elle échange de l'énergie avec du soleil qui, lui, est autour de 6000 Kelvin. Donc, le fait de refroidir, ben, on a deux différentes températures, donc le système n'est pas, comment dire, n'est pas réciproque. D'accord ? Si vous mettez la cellule à la température du soleil, ben, vous avez deux corps à la même température. Vous ne pouvez pas extraire de l'énergie. Si vous avez une différence de température, vous avez de l'entropie. La deuxième terme, ah ça c'est intrinsèque, forcément. Le deuxième terme, qui est celui-là, est le suivant. On a de l'énergie qui vient du soleil, des photons, et ces photons-là, ils viennent avec un angle solide, d'accord ? Qui est celui-là, autour de, allez, 6 téradians, si ma mémoire est bonne. Mais votre cellule, factuellement, c'est une LED. Ça veut dire qu'elle émet aussi des photons. On ne les voit pas parce que c'est dans l'infrarouge. Mais elle émet des photons, la cellule solaire. Et ces photons-là, en fait, quand elle émet dans toutes les directions. Et on a ce qu'on appelle une perte de direction, une perte d'information autour de ces photons. Donc, c'est une création d'entropie. Donc, elle est autour de 280 millivolts de perte. Ces photons-là, en fait, ne sont pas tout à fait extraits. On a un rendement de ce qu'on appelle de LED de la cellule. Donc, globalement, on perd 300 millivolts sèches, quelle que soit la cellule que vous avez. Donc forcément, si vous avez des gaps très faibles, vous ne gagnez pas beaucoup. Vous avez intérêt à avoir une cellule avec un gap élevé, pas si élevé que ça, mais bon. On va dire, si vous rappelez tout à l'heure, le gap le plus optimal, c'est autour de 1 EV. Alors, on a compris rapidement dans les années 40 et 50, on a compris à quel rendement on a, et on a compris comment y aller. Et c'est là où s'est mis en place la course au rendement, à la performance des cellules solaires. Donc on est passé de 6% avec cette évolution-là. Alors cette évolution, c'est quoi ? C'est ce qu'on appelle en développement une courbe en S. Autrement dit, vous fabriquez n'importe quel appareil, vous passez par ces étapes-là, à savoir qu'au départ, vous avez ce qu'on appelle des ruptures technologiques. En l'occurrence ici, on a amélioré la manière de fabriquer les jonctions PN, on a amélioré le contact, on a amélioré les couches anti-reflets pour la lumière. Donc à chaque fois, il y a une rupture technologique. Quand on arrive à un point ici, on a un plateau où on reproduit la même chose. Il y a les laboratoires un petit peu dans le monde, refont les mêmes expériences, bon, il n'y a pas de développement. Jusqu'à ce que quelqu'un trouve une nouvelle idée pour dire, tiens, on peut améliorer la cellule solaire par quelque chose, donc une nouvelle rupture, et c'est comme ça. Donc ces ruptures-là ont abouti vers 99 à ce rendement-là. Donc on est passé de 6 à 25. Alors cette partie-là a été faite beaucoup en Australie, c'est exactement l'université où j'étais à l'UNSW, c'est là où il y avait une grande équipe de recherche qui a fait tout ce travail-là, de là à là, à 25%, avec une technologie plutôt liée à la microélectronique, ça veut dire la photolithographie, des choses qui peuvent plutôt correspondre à ce qu'on fait actuellement pour les puces électroniques. Donc c'est une technologie de pointe, mais l'idée était de trouver comment arriver au maximum de rendement. 25% en 99 et plus rien. Ça veut dire à partir de 25%, à partir de 99, quand on regardait dans la communauté l'évolution des rendements, ça s'est arrêté. Alors ce qui s'est passé, il y a un changement de paradigme, double. Le premier, c'est qu'au bout de 20 ans, il n'y a pas beaucoup de choses qui s'est arrivé, mais pourquoi? Parce que l'industrie a pris ce point-là, dit, est-ce qu'on est capable de fabriquer cette cellule-là qui est dans un laboratoire, qui va coûter très très cher, est-ce qu'on peut la reproduire à l'échelle industrielle? Et ça a pris à peu près 20 ans. 20 ans pour ce point-là, c'est quasiment ce point-là, à peu près, il y a 1% ici de plus, hein, 25,5, etc. Mais peu importe. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est qu'à partir de là, la recherche est devenue à l'échelle industrielle. On a fabriqué des cellules à partir de 2012-13, dans l'industrie. Et c'est quelque chose, quand on regarde l'histoire des développements technologiques, on ne le trouve pas souvent, ça. D'être capable de fabriquer une cellule, rappelez-vous, on est à 30%, enfin, la limite, c'est 29%. Là, on est capable de le faire à l'échelle industrielle à 25% de rendement. Et ça, c'est important. Et on est même monté à 26,7, ça c'est le dernier record qui est détenu par un industriel, Panasonic en l'occurrence, maintenant c'est Kaneka, au Japon. D'accord ? C'est-à-dire une plaque de silicium qui fait 150 par 150 et qui peut être mise dans un module et qui a ce rendement-là. Question, pourquoi on a 25, 26, qu'est-ce qu'on a fait de là à là? Mais est-ce qu'on peut aller plus loin? On va refaire un tout petit peu de physique, de matériaux, mais qui est avec les mains aussi. D'accord? On va faire un peu avec les mains. Alors, j'ai mis ici une citation qui est très connue de Pauli, qui disait en gros que Dieu a créé le cristal parce que c'est parfait, et c'est à la surface que tout se passe. Et c'est vrai. Pour les cellules solaires, tout se passe à la surface des cellules solaires. Pourquoi? Alors, je vous donne cette image-là. Elle vaut ce qu'elle vaut. Vous avez ici votre tonneau, là, vous récupérez l'eau de la pluie. Donc, encore une fois, vous récupérez tout l'eau de la pluie. Il n'y a pas de limitation d'absorption. On va dire qu'il n'y a pas de limitation de matériaux pour absorber tout le photon. Ce qui se passe, c'est que vous avez des trous. Vous récupérez ici votre flux. Donc, le flux ici, il est proportionnel au flux là. D'accord? Le flux est proportionnel. Hein. Il y a... Ce que vous perdez, en fait, quand il y a des trous, ce qu'on appelle les recombinaisons, à la surface des matériaux, parce qu'en volume, globalement, c'est propre. Vous chutez. En réalité, ce qui se passe de là à là, les développements qu'on a ici, globalement, c'est juste au niveau de la tension. À la sortie de votre cellule. C'est ça qui est vraiment le lead. Alors pourquoi? Parce qu'on a aussi des recombinaisons de surface. Alors le courant de recombinaison, il est écrit comme ça. Hein. Ça, c'est la durée de vie des porteurs. Et globalement, on a maintenant des matériaux en silicium qui sont de très bonne qualité. Alors, je m'arrête 2 secondes pour ça. Ça aussi, c'était un défi. Alors, quand j'ai commencé à travailler sur l'énergie solaire, ça peut prendre maintenant plus de 10 ans, à l'époque, on disait que les cellules solaires, l'avenir, ça va être des cellules en multicristallin, genre de qualité de fabrication assez simple. Le monocristallin, c'était quelque chose qui était propre au laboratoire. C'était pour vous donner notre image, les Formule 1 des voitures, on va les laisser, mais on est dans l'industrie, on va faire du multicristallin. L'avenir a dit tort, l'inverse, c'est que les cellules qu'on fabrique, c'est du monocristallin. Donc la durée de vie dans les cellules est de très très bonne qualité. Donc ce qu'on perd, c'est vraiment à la surface. À partir de là, on est parti d'une cellule très simple. Ça, c'est la cellule qui était à 6% en fait au départ, hein, mais qu'on a modifié en essayant de piéger la lumière à la surface. Ce que vous voyez ici, c'est des pyramides pour venir capter le maximum de lumière. C'est pour ça que j'avais dit tout à l'heure, capter la lumière assez vite, on a compris comment le faire. D'accord? Donc les premières cellules, elles étaient très simples. Hein, c'est de l'aluminium ici, ça c'est une couche anti-reflet, ça c'est votre contact argent et aluminium. Et en fait, l'aluminium que vous mettez ici, dès qu'on le chauffe, c'est de la sérigraphie. Il va avoir une diffusion d'aluminium ici, ça va doper, ça va créer ce qu'on appelle un champ ici électrique qui va venir quelque part faire qu'on collecte très bien les charges. Ça, c'est la première génération de cellules. Ça a tenu dans l'industrie pendant 10-15 ans. Elles étaient très faibles à fabriquer et ce qui a fait l'essor de l'industrie photovoltaïque. Mais elles étaient limitées à 20%. La raison, c'est que quand vous mettez un métal avec un semi-conducteur, ça ne marche pas. Autrement, enfin, ça marche. Mais la qualité de la surface, elle est très, très, très faible. On crée beaucoup de défauts à cette interface-là. Donc, tous les développements après qui ont été faits dans les laboratoires, notamment en Australie, c'était de venir, ce qu'on appelle, soit avoir des contacts, ce qu'on appelle passivés, ça veut dire on va venir nettoyer, enfin, mettre à la surface des couches qui vont passiver, ça veut dire toutes les liaisons dendrites à la surface, on va venir les saturer, ce qu'on appelle la passivation, et essayer de limiter le point de contact pour aller récupérer le courant. Et c'est ça qui a fait qu'on est passé de 20 à 25% de rendement. Mais ces cellules-là qui étaient au départ dans le laboratoire sont passées à l'industrie. D'accord ? Une deuxième variante, ça c'est des procédés haute température. Une deuxième variante, c'est utiliser ce qu'on appelle les hétérojonctions. Autrement dit, on va passiver notre matériau. Alors la passivation, encore une fois, c'est venir toutes les liaisons dendrites à la surface, on va venir les saturer. Et l'hydrogène a cette capacité de guérir les surfaces. D'accord ? Donc on va passiver les surfaces. Et la cellule de 26,7% qui détient le record, c'est cette cellule-là. Pourquoi ? Parce que, pour les raisons que je viens d'évoquer, hein, l'hydrogène est un bon passif, passif très bien les surfaces. Alors, j'ai mis ici cette indication parce que ce procédé-là, c'est des procédés basse température. Ces cellules-là sont fabriquées à 400 degrés Celsius. Celles-là, autour de 1500 degrés. Alors, la différence peut paraître de température, mais... à 1500 degrés, ça veut dire avoir des fours qui montent en température, ça prend beaucoup d'énergie, d'accord ? Alors que là, basse température, le bilan thermique au sens budget thermique, il est plus faible. Mais ça pose problème, j'évoquerai ça tout à l'heure. Donc là, on est à des rendements de entre 24 et 25, maintenant 26,57% de rendement. Voici un petit peu... Je vous ai donné les cellules. Pendant 15 ans, un petit peu les cellules solaires, elles étaient ce qu'on appelle des cellules LBSF. LBSF, pourquoi ? Parce qu'on a un champ électrique qui est généré en face arrière de la cellule. Ces cellules-là, elles commencent à disparaître dans l'industrie. Remplacées par ce qu'on appelle les cellules paires, donc c'est ces cellules-là. Alors, cette figure-là a l'air simple, mais croyez-le, il y a 5-6 ans, c'était impensable. C'est-à-dire, ce n'était pas possible de penser que l'industrie pouvait fabriquer des cellules à l'échelle industrielle avec ces architectures-là. Parce que c'était, de point de vue coût, très élevé. Mais c'est passé. Donc, on a actuellement, la projection qu'on a, c'est que pour les prochaines années, ça va être ces cellules de type PERC. Les cellules hétérojonction, bien que le rendement est plus élevé, bien que le bilan thermique pour les fabriquer est plus faible, mais de point de vue complexité de les fabriquer, elle est à un degré un peu plus élevé de point de vue équipement pour faire ces cellules-là. Donc, on va dire, on a ces cellules-là qui, encore une fois, sont autour de 24%. Alors, vous me direz, c'est très bien, maintenant, on a des bonnes cellules à 24% dans l'industrie. Bon. Mais il y a un problème. Au départ, il y avait un problème initial qu'on a traîné dans l'industrie photovoltaïque, c'est qu'au début, rappelez-vous, j'avais dit que la première cellule était de type N. Autrement dit, notre plaque de silicium était dopée phosphore et on mettait juste à la surface un peu de bore pour faire la jonction PN. Mais comme l'industrie photovoltaïque au départ, elle n'était pas faite pour l'industrie qu'on connaît maintenant, elle était faite pour le spatial. Dans l'espace, les cellules de type N sont pas, elles sont très sensibles. Transition de la quoi ? Au rayonnement ionisant. Donc on a changé le braquet. Tout au début, on a mis des cellules de type P pour éviter ça là. Et ça marche très bien. Sauf que les cellules de type P, ils ont un grand problème, un défaut assez majeur. C'est que, rappelez-vous la durée de vie, hein, j'avais dit que c'est très bien, hein, mais il se trouve que dès qu'on met la cellule dehors, dès qu'elle voit la lumière, ses performances se dégradent. Les 24% que j'ai vendus tout à l'heure ne sont pas tout à fait bien. Il y a une petite chute assez vite, qui est visible. Pourquoi ? Alors, l'explication, c'est que en fait, le bore qui est le dopant pour notre cellule de type P, il y a toujours de l'oxygène à l'intérieur, et dès qu'il y a la lumière, ce qu'on appelle une création de complexes bore oxygène qui font qu'on a des défauts. Alors, il y a des choses pour guérir ça, enfin, il y a des méthodes pour guérir ça, donc le rendement en fait remonte un peu, alors, il chute, après il remonte, donc on a des bon an, mal an, on a des bons rendements. Donc on est à l'échelle des cellules, donc on est encore une fois à 24-25% de rendement. Maintenant la cellule, vous avez tout compris que la tension est très faible, hein, 600 millivolts, 700 millivolts en sortie, donc il faut mettre tout ça dans les modules pour faire une tension plus élevée. Alors dès qu'on met dans les cellules dans les modules, ce qui va se passer, on va perdre du rendement, de la puissance. La raison, c'est que, bon, une cellule, là, j'ai schématiquement mis mon cellule dans un module, ça, c'est les cellules, ça, c'est le verre, l'encapsulation, ça, c'est le polymère, c'est une espèce de colle qu'on utilise pour fabriquer les modules. Et de point de vue optique et électrique, bon, on peut intuitivement voir qu'il y a des pertes, à savoir ce rayon-là, au lieu de taper ici, tape là, il y a les contacts métalliques, bref, tout ça, on part, par exemple, d'un module à 22, avec des cellules à 22%, bah, on aboutit à un module à 19%. On a perdu 2 points, enfin presque, voilà, presque 3 points en absolu de rendement. D'accord ? C'est ce qu'on appelle le cell to module. Donc c'est des pertes. Alors il y a. Au début, dans les 2000, enfin, les cellules étaient autour de 225. On a commencé à faire ce qu'on appelle l'ingénierie. Hein, c'était un travail d'optimisation de surface, hein, avec plusieurs architectures. Quitte à diviser la cellule en deux, l'image à garder ou l'information à garder est la suivante. On est actuellement maintenant autour de modules avec des cellules très très larges. Alors c'est pas le mainstream, c'est-à-dire en Chine on pousse à avoir des modules comme ça, mais bon, on est encore à, globalement avec cette configuration-là et on limite un peu les pertes. Donc avec l'idée de passer à 100%, c'est-à-dire diminuer vraiment les pertes. C'est quelque chose qui est envisageable hein, sur le papier. Hein. C'est pas. Donc, tout ça pour aboutir à ça, c'est un premier point peut-être de bilan, c'est de dire, voici un petit peu l'évolution des rendements des modules photovoltaïques. On est à 20% actuellement, et avec des cellules PERC. Et l'évolution qui est un peu envisagée, qui est documentée, qui est bien traitée, fait penser qu'on peut relativement aboutir à 24% d'ici 2030. Alors, j'ai 20%, c'est énorme comme rendement. À 24, je pense qu'on ne se rend pas compte de cette valeur-là en absolu par rapport à une technologie mainstream, c'est-à-dire vendue un peu partout, que tout le monde peut installer chez lui. 24% en 2030, c'est envisageable. Ça, c'est le premier point. Donc, les rendements, on a quand même aujourd'hui des panneaux à 20% de rendement. Deuxième élément, c'est plutôt économique, de dire le prix. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Là, pendant toute la première partie, on a parlé plutôt de la partie purement scientifique, hein, des rendements, comment on a pu aboutir à 20% de rendement. En parallèle de ça, ce qui s'est passé, ce que je représente ici, ce qu'on appelle la courbe d'apprentissage. Autrement dit, ça nous dit, si on double la capacité de production par deux, suivant cette courbe-là, nous dit on baisse les prix à 25%. Ça, c'est la courbe d'apprentissage, c'est vraiment une droite. Alors, pourquoi? Il y a eu beaucoup de choses. Un élément assez important qui a fait qu'on a beaucoup diminué les prix, et ça, c'est un élément à prendre, c'est qu'à partir de 2000, notamment en France, à partir du Grenelle de l'environnement en 2006, on a fait ce qu'on appelle les tarifs de rachat. À l'époque, c'était pas actif, les gens étaient un petit peu contre de subventionner le PV, le photovoltaïque, mais en réalité, quand on regarde, c'est ce qui a fait qu'on a diminué les prix, qu'on a lancé massivement l'installation, donc fabriquer des modules, et la fabrication des modules, automatiquement, l'apprentissage fait qu'on arrive à diminuer les coûts. Alors, il y a un point que je voulais signaler, c'est qu'à partir de 2004, il s'est passé quelque chose qui me paraît très important à citer. À partir de 2000, on voit une petite remontée de prix. Ce qui s'est passé en 2000, entre 2000 et 2004, l'industrie photovoltaïque, en termes de consommation de silicium, était quasiment la totalité de la microélectronique. C'était assez astronomique comme chiffre. On avait le PV, il y avait la microélectronique, ben, le silicium prenait tout. Enfin, l'industrie PV prenait tout le silicium. Donc, automatiquement, il y avait une tension assez importante. Et à cette époque, on se disait que bon, c'est une technologie qui va finalement périr. En 2000, on pensait que photovoltaïque ne pouvait pas être une solution d'avenir pour l'énergie. Et à ce moment-là, Chine, ce qu'elle a fait, bon, elle a créé des usines de fabriquer le silicium purement pour le photovoltaïque, ce qu'on appelle le silicium métallurgique, non pas pour l'électronique, mais pour le photovoltaïque, qui avait une qualité moindre que la microélectronique, mais suffisant pour faire nos 20%, nos 24% de rendement. Et à partir de là, la chute, ce que je vais essayer de tracer ici, c'est une droite, parce que certains pensent qu'on a basculé vers une nouvelle courbe d'apprentissage où les prix, au lieu de faire chaque dédoublement 25% de baisse, on va plutôt à 40% de baisse, qui est assez élevé comme information. Donc aujourd'hui, on a un des modules photovoltaïques qui ont un rendement plus de 20%. On a un prix de fabrication qui est au-dessous du 25 centimes. Historiquement, je reviens à mon expérience personnelle. Quand j'avais commencé en 2008 à travailler sur ce domaine-là, on nous disait qu'il faut descendre au-dessous de 2 dollars. Enfin, en gros, on est largement au-dessous, en fait. C'est ça l'information qu'il faut garder. On a fait plus que ce qui était nécessaire pour que l'industrie soit rentable. Alors, ce qui va se passer à partir de 2023, on ne sait pas beaucoup. Information autre information. Un autre défi qui était dès le départ un petit peu dans les tuyaux, et c'est un élément qu'on souvent on reproche au photovoltaïque, c'est l'impact de l'industrie photovoltaïque. Donc, pour fabriquer un panneau solaire, quel est son impact carbone si on le compare aux autres, d'accord ? On a un aspect rendement, on a un aspect économique, maintenant un aspect environnemental qui est important. On a maintenant du recul, hein, et le recul, il est celui-là. Donc si on le compare aux autres industries, on est autour de moyenne de 30 grammes de CO2 équivalent par kilowatt. Et je pense que même ce chiffre-là, il est surestimé. Je pense qu'on produit, on libère moins que 30 grammes. Les dernières publications que j'ai lues, je ne les ai pas indiquées parce qu'il y a de l'analyse derrière, montrent qu'on est encore au-dessous de ce chiffre-là. Mais tout ça pour dire qu'on est quelque part très très loin des autres, et surtout il est faible, hein, parce qu'il y avait un des arguments de contre le photovoltaïque il y a quelques années, c'était vraiment son impact CO2, et finalement elle est très faible. Donc troisième défi, quatrième défi, c'était l'énergie grise. Alors c'est quoi l'énergie grise? C'est le temps de retour énergétique. En gros, on dit, bon, vous fabriquez des bons panneaux, ils ont une faible émission de CO2. La question, c'est que est-ce que l'énergie que va prendre ce panneau solaire va équilibrer l'énergie qu'il a fallu pour les fabriquer? Et pendant beaucoup d'années, on disait que cette énergie-là était très astronomique. En réalité, non. Ça, c'est un travail qui date de 2022, hein, donc très 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 récent, qui montre, ça je vous représentais ici sur la carte de France, la carte d'Europe, hein, la France elle est là forcément, donc, et ça c'est le retour de temps énergétique. En France, en moyenne, est autour de 1 an. Autrement dit, au bout d'une année, l'énergie qu'a produit un panneau solaire a rééquilibré l'énergie qu'il a fallu pour extraire le silicium, le transporter, fabriquer des cellules, des modules, les installer, et injecter les premiers électrons dans le réseau. Je pense même dans ce rapport, on prend en compte le démantèlement des panneaux solaires. Non pas le recyclage, mais juste le démantèlement. Donc vous voyez, sur la durée de vie, et la durée de vie des panneaux solaires, elle est actuellement autour de 25 années, mais on pense que ça monte à 40 ans, voire 50 ans. Donc du point de vue impact environnemental, c'est très très faible. Maintenant qu'on a fait ce panorama-là, on va rentrer un petit peu pas le vif du sujet, on y est déjà, mais de voir ça maintenant du point de vue purement production électrique. Donc, on a une industrie qui est mature, qui a prouvé son expérience. On fait un point ici, aujourd'hui, on dit, bon, en 2021, combien produit les panneaux solaires en France? Les panneaux solaires en France produisent en gros 14 TWh. Avec l'éolien, on est autour de 50 TWh. D'accord ? Donc voici un petit peu la montée des installations. Cette année, on est aujourd'hui à 13 GWh. Alors, il faut monter, c'est un petit peu le plan, hein, il faut monter à 44 GWh. Et ça, c'est un défi. Ça, si on peut parler d'un défi, un premier défi, c'est celui-là. C'est de pouvoir monter à cette capacité-là. Aujourd'hui, on n'y est pas. C'est-à-dire, c'est pas qu'on n'a pas les moyens. C'est qu'on n'a pas mis les moyens pour y arriver. D'accord ? On peut le faire, mais il faut mettre les moyens. On va essayer de prendre un peu de hauteur par rapport à la France, mais on va y revenir. Ce que je représente ici, et c'est ça qui aussi a un message, assez, un signal assez important, c'est que cette année, ça c'est vraiment on cumulait toutes les centrales photovoltaïques dans le monde, hein, cumulées en terawatts. Donc en 2021, on a ajouté un terawatt. Alors, pourquoi je dis un terawatt ? Parce que les projections pour installer d'ici 2050 entre 40 et 70 terawatts, il faut faire 1,5 à 3 terawatts par an. C'est un peu les projections internationales. Et ça, c'est le grand défi actuel. C'est que, est-ce qu'on est capable de monter à cette échelle-là ? Alors, cette année, on l'a fait. Est-ce qu'on va pouvoir le faire ? Je ne sais pas. Alors, pourquoi je dis ça ? Parce que si on revient à la France, quel défi nous on s'est mis ? Alors, ce que je représente ici, c'est les 6 scénarios qu'a produit RTE, donc le réseau transport d'électricité en France, en 2022. Elle a fait tout un travail, enfin, le rapport il fait plus de 1000 pages, pour voir par rapport à une courbe de consommation d'ici 2050. Pourquoi 2050 ? C'est la neutralité carbone en France. En 2050, on doit atteindre un équilibre entre l'émission et les puits, zéro émission de CO2. Et pour ça, quels sont les scénarios possibles ? Alors, on a écrit 6. Alors, 6, que je peux diviser en deux grandes parties. Alors, les M, ça veut dire mixte, c'est-à-dire on a du nucléaire et des énergies renouvelables. N, ça veut dire qu'il y a du nucléaire, mais surtout une volonté de produire du nucléaire. Alors, quand ce rapport était sorti, la plupart des gens disent, bon, il y a du nucléaire, mais tant mieux. La question n'est pas là. La question, c'est que ce qu'il y a dedans, il faut rentrer dans le détail. En fait, on passe de 0% nucléaire à 50% nucléaire. En fait, dans le scénario le plus avantageux, quelque part, pour le nucléaire, on est à 50% nucléaire ici. Et ici, on est à 100%. Et ce que j'ai affiché ici, c'est en termes de gigas installés. Rappelez-vous, on est à 14 gigas. On doit monter à 208 gigas dans le scénario 100% renouvelable et 70 gigas avec un scénario nucléaire. Alors, la différence entre ces scénarios-là, elle est quoi ? Elle est, si je prends celui-là, je vais continuer à installer des nouveaux centrales nucléaires de première, deuxième génération. Et l'énergie renouvelable, elle est là pour venir équilibrer la fermeture d'anciennes centrales nucléaires. Parce que d'ici 2060, 2050, 2060, on fermera quoi qu'il en soit. Qu'on peut être pour ou contre, il y a des centrales qui vont être fermées, il faut en créer peut-être des nouveaux. Mais tout ça pour dire, dans tous ces scénarios-là, quel que soit le scénario, on est quand même, on doit monter en termes de production. Et là, on va avoir des problèmes. Alors, juste un point que je dois signaler, parce que un des arguments pour dire que le solaire n'est pas bon, qui est beaucoup donné dans les médias ou dans certaines revues ou dans certains livres, c'est de dire par rapport à ce que j'avais affiché tout à l'heure, est-ce qu'on a assez de surface pour le faire ? Ou on a assez de surface, forcément. Mais est-ce qu'on ne va pas empiéter sur, finalement, des surfaces cultivables ou d'autres ? Alors ça, c'est une carte qui a été faite par l'Agence d'agriculture en France. Et ce que je représentais ici, par rapport à tous les scénarios, la surface utile qu'on va prendre ici. Ça, c'est les surfaces artificialisées. Donc, en fait, c'est pas nécessaire d'aller prendre ici. On a déjà, les surfaces artificialisées sont suffisantes pour aller installer ce qu'on doit installer. Il n'y a pas de problème de surface. D'accord ? On a ce qu'il faut. Et encore mieux, quand on essaie de répartir tout ça, ça c'est RTE, quand on essaie de répartir les panneaux solaires un petit peu en France, en blanc, c'est les surfaces où on ne peut pas. Il y a des contraintes environnementales, des surfaces pas disponibles. Enfin, vous voyez, c'est globalement, on est assez diffus. Donc, j'ai pas représenté la courbe de l'éolien. L'éolien, c'est un peu plus concentré dans cette zone-là, alors que le photovoltaïque est assez large. Alors, Il y a un point qui est resté, qu'on n'a pas encore vraiment testé. Enfin, on installe de plus en plus de centrales photovoltaïques hein, en France. Hein. Il faut monter en gamme. Mais il y a un point qu'on n'a pas encore testé. Et à mon sens, c'est un élément comment dire, qui peut changer la donne. C'est l'intégration des panneaux solaires au bâtiment. Georges l'a dit tout à l'heure, moi, quand j'étais recruté au CNRS en 2008, mon projet, c'était de faire du PV dans le bâtiment. Ça fait des années qu'on en parle, c'est pas encore. Alors qu'en termes de surface, il y a de la matière, en fait. On peut aller jusqu'à 125 TWh, rien que pour les surfaces du bâtiment. Alors quand je dis du faire du BIPV, c'est pas juste prendre un panneau solaire et le coller sur un bâtiment. C'est vraiment imaginer des panneaux solaires adaptés au bâtiment. Que la surface ici, ce que je représente ici, ça c'est des panneaux solaires. Hein. Celui-là c'est un panneau solaire. Il est blond, parce qu'il a été fait blond, pour que le bâtiment en question épouse l'esthétique du quartier. Donc on a fabriqué des panneaux blancs. Il y a maintenant des entreprises qui font des panneaux solaires avec une couleur tuile. J'ai visité en Suisse le CECM, qui est un grand centre de recherche. Ils sont capables d'imprimer sur un panneau solaire ce que vous voulez, y compris votre photo, une rose, peu importe. On peut avoir des panneaux solaires avec une esthétique différente. Le rendement n'est pas très important, il y a des pertes. Mais encore une fois, c'est l'équilibre entre ce que je produis et des contraintes esthétiques. Parce qu'on a des contraintes. Un truc très simple, hein. Vous avez les anciens bâtiments, il y a des contraintes de couleurs qu'on ne peut pas toucher. À Toulouse, on ne peut pas changer la couleur de la ville. Je donne cet exemple-là, par exemple. Si on veut installer des panneaux solaires, il faut que ces panneaux solaires ne viennent pas casser l'harmonie en couleurs, si on peut utiliser ce terme-là. Encore une fois, il y a des solutions. On ne les a pas mis en place, c'est tout. Tout ça pour dire qu'il y a des solutions, mais il y a des problèmes qui restent encore. Alors, un des problèmes qui va arriver, rappelez-vous tout à l'heure, j'avais dit que tous les cellules solaires actuellement, les contacts utilisés sont à base d'argent. Alors, le silicium, c'est un matériau qui est très répandu. On n'aura pas de problème de silicium. Même en France, les réserves, en France, je crois que c'est quelques millions de tonnes de réserves. Donc, on n'a pas de problème avec le silicium. Alors, juste en parenthèse, souvent, on parle du silicium, c'est pas du sable. Je le dis parce que bon, j'ai déjà lu quelque part, c'est pas du sable. C'est vraiment du silicium, c'est de la silice haute qualité. Même ça, on a assez de silicium. Le seul élément, c'est l'argent. Pourquoi ? Non pas qu'il n'est pas disponible, c'est qu'il va rentrer en tension. Ça, ce que je représente ici, c'est un papier. Ah, dommage, je n'ai pas mis la référence. C'est un travail qui a été fait cette année. On a regardé pour l'ensemble des autres sources d'énergie renouvelable l'argent, la ressource en termes d'argent et en termes de consommation. Alors, ça, c'est une courbe qui vous dit, quelque part, la ressource est là, mais on ne peut pas aller au-delà de cette valeur-là pour l'extraire. Il y a des modèles derrière. Parce que ça nous dit, à la limite de 2050, en réalité, ça, c'est tous les secteurs. Ça, c'est le photovoltaïque, ça, c'est l'éolien, et c'est les autres secteurs de production. Donc, à ce point-là, en fait, il va y avoir de la tension, la demande, il faut faire une politique de répartition de cette ressource-là. D'accord ? Donc, il y aura de la tension au niveau. Alors, il y a des idées autour de changement de changer l'argent par le bismuth, mais bon, les travaux ne sont pas encore... Alors, une des solutions à ce problème-là, qui aussi reçoit un défi actuel, c'est le recyclage des panneaux solaires. Ça, c'est quelque chose qui... Il y a un gisement assez important de matériaux. Là, ce que je représente ici, c'est le panneau solaire, hein, c'est le verre, ça, c'est le cadre, on a lu la cellule, etc. Enfin, une vision un peu exposée. Et ici, ce que je représentais, ce qui est recyclé, ce qui n'est pas recyclé, et vous voyez, les métaux, on ne recycle pas. Alors, on peut les recycler, mais pour le moment, on ne le fait pas. Et même le verre, en réalité, ce n'est pas du recyclage. Au sens, on prend le matériau, on fabrique un nouveau panneau solaire. Pour le moment, on ne fait pas ça. Pour le moment, on va broyer l'aluminium, on va le faire, on va l'utiliser autre chose. Alors, il y a beaucoup de raisons. Hein. Une des raisons, c'est que le verre qui est ici, on ne peut pas le mettre dans le tout venant, parce qu'il y a... à l'intérieur, il y a des métaux qui ne sont pas tolérés dans le verre classique qu'on utilise. Mais il y a une industrie à faire, et en France, je pense qu'il y a un atout en France. On a une carte à jouer à ce niveau-là. Il y a une entreprise grenobloise qui travaille sur ces questions-là, sur le recyclage. Et l'objectif final, c'est vraiment de faire ce qu'on appelle prendre le verre, le réutiliser, récupérer tous les métaux ici, les réutiliser. Donc, il y a du travail. Alors, pourquoi c'est pas fait? Techniquement, on peut le faire. La raison est économique, c'est qu'il n'y a pas encore de filière parce qu'il n'y a pas assez de panneaux solaires encore. Donc, si un industriel veut se lancer sur ça, il a assez d'argent, mais il n'a pas assez de panneaux, donc il faut attendre un peu. Donc, il y a de l'incitation à ce niveau-là à faire. Alors, il y a un autre problème que je n'ai pas signalé depuis le début. Certes, j'ai parlé de 24% de rendement. Un des problèmes qui est aussi important, c'est en conditions réelles, on sait que les panneaux solaires se dégradent dans le temps. Pour plusieurs raisons. Une des raisons, c'est la température. C'est que la température de fonctionnement des modules, elle est autour de 60 degrés au lieu de température faible, autour de 25, la température ambiante, elle est à 60 degrés. Donc, il y a une perte. Et cette perte-là, il y a des pertes qui peuvent aller jusqu'à 0,5 à 0,7 par an de performance. Donc, il y a un travail à faire à ce niveau-là pour améliorer les performances des panneaux solaires. L'idée étant d'augmenter la durée de vie des panneaux. Aujourd'hui, elle est de 25 ans. Alors, 25 ans, c'est une assurance. Le panneau solaire, il pourra rester jusqu'à 30 ans, 40 ans. Les anciennes centrales solaires fonctionnent toujours. C'est juste une question de garantie, de dire sur 25 ans, on perd jusqu'à quelques pourcents de rendement. D'accord, c'est une garantie assureur classique qu'on obtient quand on achète un produit. Mais en réalité, ça ne représente pas l'assurance du photovoltaïque. Alors, ce que je représente ici, rappelez-vous tout à l'heure, j'avais indiqué les pertes de la cellule module. Quand on intègre le reste, c'est-à-dire quand on met le module en conditions réelles, on a des pertes. Qui sont encore plus importants. Donc, il y a tout un travail autour des modules pour améliorer les performances. Donc là, à ce point-là, on est à quelque part à l'industrie actuelle, les choses qu'on peut faire. Maintenant, une des questions, et c'est un petit peu... Je commence à conclure un petit peu ma présentation, c'est de dire comment faire pour aller plus loin. Donc, actuellement, on avait dit qu'on était proche de la limite... ce qu'on appelle de choc les limites, de choc les caisseurs, de 30%. Et une des raisons, de dire, est-ce qu'on peut faire mieux en rendement? Parce qu'une des manières pour produire plus, c'est d'avoir un rendement plus élevé. D'accord? Les 30%, c'est une limitation à une jonction. La question, est-ce qu'on peut faire plus que 30%? Alors, il y a deux manières de le faire. La première, rappelez des pertes. La première de faire, c'est augmenter le travail par photon. Alors, ça veut dire quoi augmenter le travail par photon? Rappelez-vous, un photon, quand il est absorbé, la tension qu'on va générer, elle est égale quelque part à la différence des quasi-niveaux de Fermi. Et cette différence, elle est liée à ce que le photon, quand il est collecté, il a déjà perdu beaucoup d'énergie à cause de la thermalisation. Dit autrement, un photon arrive avec une température de 6000 Kelvin. Il est absorbé, il tombe à 300 Kelvin. Entre 6000 et 3000, il a perdu beaucoup d'énergie. C'est cette thermalisation. Et ce travail-là, il est plus fin. La question, c'est de dire, si on est capable de collecter les électrons et les trous avant qu'ils se thermalisent, à ce moment-là, on va extraire beaucoup plus d'énergie. Et le calcul a été fait, on est autour de 67%. Alors, ces cellules-là, ce qu'on appelle les cellules à porteur chaud. Il y a des laboratoires qui travaillent sur ces cellules-là, y compris en France. C'est une solution... à long terme, peut-être, mais ça fait travailler les chercheurs, c'est notre métier de travailler sur ce sujet-là. Une deuxième, qui est à mon sens plus à notre portée, à savoir court et moyen terme, c'est ce qu'on appelle augmenter le travail des photons, collectivement. Autrement dit, au lieu d'avoir une jonction, pourquoi pas cascader les jonctions et venir limiter petit à petit la thermalisation. D'accord. Ce que je représente ici, ce que j'ai calculé ici, je vous ai calculé le rendement en fonction des jonctions. Donc vous voyez, à partir de 5 jonctions, on est presque à 60%. Alors 5 jonctions, c'est faisable, ça a été fait, ça a été fabriqué, on les fabrique pour le spatial. Ça coûte très cher, c'est des matériaux à base de 3,5, des matériaux de 3,5, donc on sait les faire, mais techniquement, ça coûte très très cher. Donc ce n'est pas la voie envisagée, mais ce qui est envisagé, c'est de faire plutôt deux cellules, tandem. Et si on fait deux cellules ici, tandem, on peut espérer au-delà de 40% et Vous voyez ici, entre j'ai représenté ici pour le silicium. Si on met une cellule en silicium, bah, il faut mettre au-dessus du silicium un matériau autour de 1,7-1,8 EV en gap. Alors pourquoi j'ai pris le silicium? La raison est que pendant beaucoup d'années, les gens ont réfléchi à développer des cellules tandem à base de 3,5 parce qu'on savait les faire. Mais la conclusion actuelle, c'est de dire, comme on a une industrie photovoltaïque à base de silicium qui est mature, on sait fabriquer des cellules, la question, on va mettre quelque chose sur le silicium. C'est plus simple, de point de vue, alors plus simple, point de vue économique, on a une filière, on va s'adosser à cette filière-là. Au lieu de créer une nouvelle filière qui va prendre beaucoup d'années, on va s'appuyer que sur cette filière-là. Et alors, pareil, qu'est-ce qu'on met au-dessus? Ça, c'est aussi un débat qui a traduit, qui a un petit peu dans la communauté pendant beaucoup d'années. Les dernières conclusions, c'est plutôt aller sur les perovskites. Ici, ce que je représente ici, c'est les cellules tandem qui ont été fabriquées par le CECM en lien avec en Suisse. Là, c'est les. Ce que je représente ici, c'est le rendement du silicium. La courbe, vous la connaissez, j'avais présenté au départ. Ça, c'est les matériaux en perovskite. Et ça, c'est les tandems. C'est-à-dire, quand on met une perovskite sur le silicium. Alors, ce qui s'est passé en 2020, c'est qu'on a dépassé une cellule de silicium. Parce que toute la question, est-ce qu'on peut faire plus que la cellule de silicium? On a fait mieux et même, on est maintenant, on a attaqué 31,1%, mais avec des cellules qui font 1 cm carré. D'accord. Alors, il reste beaucoup de verrous. Hein. Je veux dire, on les fait, mais il reste beaucoup de verrous, notamment aux interfaces, les matériaux ici. Et en France, cette année, l'entreprise Voltaq Solar qui est vers Strasbourg, qui fait des panneaux solaires en silicium, qui fabrique des panneaux solaires en silicium, s'est associée à l'IPVF, donc l'Institut du photovoltaïque en France, pour faire une méga factory avec l'idée de monter d'ici 2030 à fabriquer des cellules tandem à base de perovskite. À 5 gigawatts. D'accord. Donc c'est un projet qui a. Bon, j'arrive à la conclusion. Les conclusions. Donc ça c'est les points verts hein, que vous connaissez. Donc on a actuellement on a des panneaux solaires des panneaux solaires avec des bons rendements, mais surtout une industrie photovoltaïque qui est capable de nous répondre à la question du mix énergétique. Avec un point, encore une fois, j'y tiens. Je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire au niveau du bâtiment. Parce qu'on a des surfaces disponibles à faire. Et le grand défi, alors j'ai mis une caricature de Rises, parce que vous arrivez à lire. Alors, cette caricature a été faite au Charlie Hebdo en 73. En 73, il y avait un congrès qui était fait en France par l'UNESCO autour de l'énergie solaire. Et il y avait un certain nombre de personnes qui étaient invitées à faire des articles, des livres, des choses comme ça. Je trouvais assez marrant de dire, enfin, la moralité qu'avait écrit ici, hein, c'est de dire finalement, il ne faut pas attendre beaucoup des scientifiques, mais les solutions sont là. C'est maintenant à nous d'aller faire des choses. Enfin, les solutions du photovoltaïque, les défis que j'ai évoqués tout à l'heure sont là. Mais en réalité, le grand défi qui nous reste, c'est d'aller faire. C'est plus politique que scientifique, étant donné que les scientifiques ont donné des solutions. Je vous remercie et on peut passer aux questions si vous le souhaitez.